Donc on se rend compte, nous, là, la petite expérience qu'on a de ces de tractage sur les usines, c'est que les employeurs ont extrêmement peur et ne veulent pas que l'on discute avec les salariés de leur boîte. Donc du coup, ils mettent en place des stratégies où quand on annonce à l'avance, ils font partir enfin, on a eu le cas il y a 2 jours, on a annoncé qu'on venait à 17 h visiter le site Safran Défense à Malakoff. Eh bien, l'entreprise a prévenu ses salariés la veille qu'on arrivait, les a incités à se mettre en télétravail, à poser des RTT ou à se barrer avant qu'on arrive. Et on a même vu que, donc on a pu voir nous depuis l'extérieur, que sur les écrans internes de com internes à l'entreprise, ils disaient vigilance, 2 points, ce mercredi, Stop Arming Israël vient pour tracter, donc la sortie va se faire par telle rue, etc. Donc il y a vraiment une communication en interne de la boîte pour dire attention, les militantes et militants de Stop Arming Israël arrivent, quoi.
Donc comme je dis, c'est le troisième pays exportateur d'armes au monde. L'industrie de l'armement en France, c'est 30 milliards environ de chiffre d'affaires par an. Et les deux autres premiers pays, il me semble que c'est les États-Unis et
La Russie.
la Russie. Est-ce qu'on peut prendre le temps de se rendre compte que la France, c'est un pays minuscule avec un nombre d'habitants minuscule par rapport aux États-Unis et à la Russie?
La tempête a emporté tout ce qui faisait obstacle à sa course folle.
Maintenant, est-ce qu'on peut éviter de sombrer dans l'éco-anxiété et être dans l'action?
Et donc nos luttes d'occupation pour squatter les logements vides contre la gentrification urbaine.
Et puis retrouver peut-être aussi l'art de vivre ensemble, l'art de faire commun, l'art de passer du temps ensemble, l'art de la fête.
Et en fait, on passe complètement à côté de ce que ça fait au monde d'optimiser. L'enjeu, ça va être de reconstruire.
La violence, c'est le mépris envers les populations.
Et c'est le bouffement du pouvoir, quoi.
Le principe, c'est de se réapproprier ses moyens de subsistance.
On peut relâcher des sangliers sur les terrains de golf des bourgeois.
Oui, ça va passer aussi par du sabotage.
Là, c'est une grue qui s'est effondrée.
Je sentais qu'il se passait quelque chose.
Avis de tempête, épisode hors série d'été 2024. En France comme ailleurs, désarmons Israël. Ça va faire bientôt un an que sous nos yeux se déroule une intensification de la violence coloniale en Palestine et en Cisjordanie occupée. En particulier, et sous nos yeux, depuis bientôt un an, l'État d'Israël massacre et extermine la population gazaoui. On parle alors de génocide. La terreur laisse place au sentiment d'impuissance. Plein de gens se demandent comment agir en dehors des manifestations interdites et criminalisées en France, pour la plupart. Les personnes que vous allez entendre dans cet épisode se sont posées la question : comment agir ? Concrètement, l'industrie de l'armement, c'est un pilier important de ce qui permet la colonisation et les massacres actuels. La place de la France au sein de cette question est importante. Le 15 octobre 2023, une trentaine de syndicats palestiniens ont donc lancé un appel à cesser tout commerce d'armement et de munitions avec Israël, ainsi que tout financement et toute recherche militaire. Stop Arming Israël. C'est donc refuser de fabriquer des armes destinées à Israël, refuser de transporter des armes vers Israël, adopter des motions à cet effet au sein des syndicats, prendre des mesures contre les entreprises complices qui participent à la mise en œuvre du siège brutal et illégal d'Israël, faire pression sur les gouvernements pour qu'ils cessent tout commerce militaire avec Israël. Le site Workers in Palestine, travailleurs en Palestine, dispo en source du podcast, a recensé les entreprises complices, classées par pays, donne des conseils pour mener des campagnes efficaces et recense les actions mises en œuvre dans le monde entier. Dès le 20 octobre, une usine indienne cesse de fournir des uniformes à la police israélienne. Peu après, des syndicalistes anglais bloquent une usine Elbit, l'entreprise d'armement israélienne. Puis des syndicalistes belges refusent de transporter des armes vers Israël par avion ou par bateau. Ensuite, ce sont les Dockers d'Auckland aux USA qui refusent de prendre en charge un navire militaire en partance pour Israël. Puis, la même histoire se produit au port de Barcelone, en Espagne. Les 9 et 10 novembre sont choisis pour un week-end mondial d'action auquel 6 pays participent, bloquant des usines ou des ports au Canada, aux États-Unis, en Italie, en Grande-Bretagne, en Espagne et en Australie. Le 1er décembre, c'est le Japon qui entre dans la danse en bloquant les bureaux d'une compagnie aéronautique japonaise ayant récemment signé un accord avec Elbit. En France, notre cas est un peu particulier, d'abord à cause de la répression, mais aussi parce que le marché des ventes d'armes françaises en Israël, tout en étant très opaque, semble assez petit. Il existe néanmoins et mérite d'être dénoncé, en particulier les collaborations de Thales et de Safran en matière de construction de drones, ainsi que la collaboration nucléaire historique qui se poursuit avec le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique. On peut également citer Hutchinson et Saft qui fournissent des pièces pour les avions américains F-35 qui bombardent Gaza. On doit enfin citer Exelia qui sera mentionné dans cet épisode, dont des composants électroniques ont été retrouvés dans les restes d'un missile ayant tué des enfants à Gaza en 2014. Un collectif Stop Arming Israel France, le lien est toujours en source de l'épisode, a donc vu le jour spontanément avec une présence devant le salon Millipol à Villepinte en novembre ou devant ses bureaux de Thales, à La Défense. Ensuite, ce sont les Dockers de Marseille qui se sont arrêtés de travailler une heure, entre guillemets, pour la paix, à l'appel de la CGT. D'autres actions se sont déroulées en région parisienne, devant les bureaux de Exelia, mais aussi devant l'université de Paris-Saclay, pour dénoncer la collaboration de Thales. Safran n'a pas été oublié, avec des actions devant ses bureaux à Gennevilliers. D'autres actions sont organisées dans des lieux publics, des gares, des centres commerciaux, et même devant l'ambassade d'Israël, le 1er janvier 2024. On a mis un peu de temps à sortir cet épisode. La discussion enregistrée date de février 2024. Elle demeure malheureusement d'actualité. Belle écoute, continuons de nous mobiliser pour la Palestine.
Du coup, nous sommes au squat La Kunda, à Vitry-sur-Seine, dans le cadre du Festival pour la Palestine. Et moi, je fais partie du collectif Les Digitales. Du coup, le collectif Les Digitales, c'est des personnes qui s'organisent pour porter des écologies radicales et ancrées dans des lieux occupés de vie et en lutte, comme ici. Cette émission sera retransmise sur le podcast Avis Tempête, un podcast d'écologie politique disponible sur toutes les plateformes de streaming. Cette discussion fera suite à un épisode divisé en deux parties sur la Palestine, l'une qui raconte l'existence en Palestine dans un contexte de colonisation d'Israël, et la deuxième partie raconte la lutte de personnes juives antisionistes qui luttent contre la guerre et l'apartheid. Gaza a littéralement été rasée par les bombardements de l'armée coloniale israélienne. Plusieurs dizaines de milliers de Palestiniens et Palestiniennes ont été tués depuis le 7 octobre. D'autres sont encore ensevelis sous les décombres. 2 millions de personnes ont été déplacées de force. La famine, le manque de soins, le blocage des convois humanitaires menacent directement la vie de centaines de milliers de Gazaouis. Dans le sud de la bande de Gaza, où s'entassent les réfugiés palestiniens et palestiniennes, et notamment à Rafah, l'armée israélienne continue de bombarder. En plus du bilan humain dramatique, l'eau, les sols et l'air sont pollués et détruits par plus de 4 mois de bombardements intensifs, spécifiquement de produits hautement toxiques comme le phosphore blanc. Selon le rapport de l'ONU du 2 janvier 2024, on comptait à Gaza plus d'une centaine de milliers de cas d'infections respiratoires aiguës, de cas de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans et des milliers de cas de gale, de poux et de jaunisse. Si depuis plus de 4 mois un génocide a littéralement lieu sous nos yeux, en dépit du droit international, c'est qu'Israël est soutenu par l'impérialisme occidental. Il le soutient comme son prolongement organique dans la région, se représentant, en d'autres termes, son chien de garde. Cela s'illustre de multiples manières, mais notamment par le soutien politique, économique et militaire de puissances comme la France ou les USA, même s'il est de nature différente en fonction des États et de leurs intérêts. À l'échelle européenne, Israël continue de recevoir de l'aide militaire et économique par l'intermédiaire de la clause entre Israël et l'Union européenne qui dispense Israël de tous les droits de douane. Concernant l'industrie de l'armement, la France a une histoire particulière, puisqu'elle a été pendant 30 ans le premier fournisseur d'armes à Israël. L'armée israélienne s'est d'abord équipée avec les Mirages français ou les chars AMX français. Et les ingénieurs français ont aidé les Israéliens à se doter de l'arme atomique. Aujourd'hui, le gouvernement français soutient par ses exportations d'armes, ses accords commerciaux, son soutien politique. Des entreprises françaises participent comme Carrefour, qui s'implante en Palestine occupée depuis 2022. Ou Thales, qui collabore avec le principal fabricant d'armes israéliennes, Elbit Systems, pour fabriquer des drones. Aux côtés des entreprises spécialisées se trouvent également d'autres entreprises, sidérurgie, métallurgie, mécanique et chimique, travaillant essentiellement dans le secteur civil, mais qui contribuent d'une manière souvent déterminante à la production d'armements pour la fourniture de produits semi-finis ou très spécifiques, type artillerie, composés chimiques pour les poudres, etc. Aujourd'hui, on se retrouve aux côtés de militantes du collectif Stop Arming Israel. Est-ce que tout d'abord, vous voulez vous présenter, parce que là, c'était quelque chose de très formel, mais est-ce que vous voulez vous présenter plutôt de manière, intime sur pourquoi vous êtes investi dans ce collectif-là et à l'appel des syndicats palestiniens?
Oui, donc bonjour, donc, moi c'est Loïc, je suis enseignant, et dès que j'ai vu cet appel des syndicats palestiniens le 16 octobre, je me dis que vraiment c'était une question centrale, parce que tout de suite il y a eu la question du cessez-le-feu qui a été mis à l'ordre du jour. Et moi je me suis dit qu'en fait vraiment si on veut obtenir un cessez-le-feu, il serait encore plus utile si Israël n'avait pas les armes qu'elle utilisait. Quoi. Donc moi je me suis tout de suite dit voilà, il faut que je aide à diffuser cet appel en France. Et donc c'est comme ça que j'ai rejoint cette campagne Stop Arming Israël.
Bonjour, moi c'est Laure, je suis chercheuse, pas du tout dans le cadre ni des questions politiques, ni des questions de l'armement, mais je pense comme beaucoup de monde à partir d'octobre, enfin un peu il y a quelques années, j'étais toujours présente disons dans les manifestations pour la Palestine, et donc à partir d'octobre notamment, et je cherchais un peu un collectif à rejoindre. Et quand j'ai vu justement cet appel, je me suis dit qu'il faisait sens et que si je pouvais être utile dans ce cadre-là, j'allais rejoindre là. Donc je dirais pas que c'est du hasard parce que je cherchais quelque chose, mais la question de l'armement finalement a bien collé avec ce qui me paraissait essentiel.
Et moi, bonjour, je m'appelle Laura. Et du coup, un peu comme Laure, je dirais que à un moment, depuis le 7 octobre, en voyant tout ce qui se passe en Palestine, on cherchait comment agir et qu'est-ce qu'on pouvait faire, nous, depuis la France, pour impacter la situation là-bas. Et aussi, on cherchait des choses à faire, je pense, en dehors d'aller tout simplement à des manifestations qui nous étaient proposées par les grandes orgas. Parce que, en fait, je pense comme beaucoup de monde, on s'est rendu compte qu'aller aux manifestations, ça ne suffit pas. D'ailleurs, ça a commencé à une période où les manifestations étaient encore très réprimées, interdites, etc. Et on voulait pouvoir aller plus loin que de simplement manifester et réclamer de nos gouvernants, réclamer des États, réclamer des grandes puissances qu'elles demandent, elles aussi, à leur tour, de réclamer un cessez-le-feu à Israël. Et on cherchait une façon d'agir de façon directe. Et donc, je pense que voilà, la question de l'armement, c'est pas forcément quelque chose qui est évident pour la plupart d'entre nous. On n'est pas des spécialistes, on n'est pas des gens qui viennent de ce domaine. On n'a pas forcément, on n'a pas milité sur la question militaire, la question de l'armement spécifiquement avant. Mais on est devenu, on s'est auto-formé, on s'est intéressé à ce sujet vraiment dans le cadre de cette période dans laquelle on est actuellement.
Et du coup, justement, vous pouvez me parler de la campagne Stop Arming Israël ?
Oui, donc en fait, la campagne Stop Arming Israël, c'est une campagne internationale, mais qui est important de signaler qu'elle a été émise donc, depuis la Palestine. Ce n'est pas quelque chose qui a été créé de manière externe. Le 16 octobre 2023, il y a plus de 30 syndicats de travailleurs palestiniens qui se sont unis donc, dans le groupe Workers in Palestine, qui ont lancé un appel à la solidarité internationale, dont un peu le slogan était « End all complicity, stop arming Israel ». Et donc ça réunissait ce groupe Workers in Palestine, à la fois des syndicats indépendants, les grandes fédérations syndicales et des associations professionnelles, à la fois à Gaza et en Cisjordanie. C'est important vraiment de signaler que voilà, il y a cette organisation en fait politique, syndicale, travailleuse en Palestine. Et nous, on a cherché à relayer cet appel depuis la France, mais ça a été le cas dans beaucoup d'autres pays dont on parlera un peu après. Donc leur revendication dans cet appel, c'était assez simple. Ils s'adressaient aux travailleurs et aux syndicats du monde entier de refuser évidemment de construire des armes destinées à Israël, refuser également de transporter ces armes vers Israël, au sein des grands syndicats d'adopter des motions qui vont dans ce sens-là, d'agir évidemment contre les entreprises complicites du génocide en cours, donc spécifiquement les entreprises d'armement, et faire pression sur les gouvernements pour qu'ils cessent tout commerce militaire avec Israël. Donc même si cet appel il était destiné aux organisations syndicales directement, il n'est pas nécessaire d'être syndicaliste pour y répondre. Comme on a dit juste avant, nous, on n'était pas forcément dans des syndicats, mais s'est dit qu'en tant qu'habitant des grandes puissances impériales, à la fois européennes, mais aussi occidentales, type États-Unis, on est tous et toutes concernés pour répondre à cet appel.
Peut-être dire un mot sur l'impact de cet appel. Donc, il est sorti le 16 octobre 2023 et à ce jour sont référencées 40 organisations de par le monde, plus de 20 pays, organisations syndicales principalement et pas seulement. On dit effectivement, on rejoint la campagne, on veut agir. Il y a eu donc toutes ces grosses organes syndicales qui ont répondu à l'appel et vous avez aussi sûrement vu qu'il y a eu aussi des groupes militants qui ont également répondu à l'appel et qui ont fait des actions très diverses. Effectivement, en Australie, ils ont utilisé des jet skis pour empêcher les bateaux d'armement de sortir. En Angleterre, il y a Workers for Palestine qui arrive à faire avec plusieurs centaines de personnes à bloquer des sites d'armement. Donc on avait vu, voilà, de par le monde, beaucoup d'actions ont eu lieu d'activistes et syndicalistes, de travailleurs avec leurs syndicats. Ça prend donc des formes très différentes, mais on sent cette envie de par le monde de faire en sorte que vraiment les armes ne parviennent pas à Israël.
Ouais, et juste, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur la campagne Stop Arming Israël à l'international, lire le texte des Palestiniens et voir un peu tout ce qu'ils ont mis en place, ils ont créé un site internet qui s'appelle workersinpalestine.org. Là-dessus, vous pourrez retrouver toutes les organisations qui ont co-signé l'appel, vous pourrez retrouver le texte intégral de l'appel dans différentes langues et des actualités, des ressources, etc. sur la campagne à l'échelle mondiale.
Du coup, là, on va un peu rentrer dans le sujet et poser la question comment la France collabore avec Israël. Et dans un premier temps, on va parler un peu de ce qui a semé le doute, notamment par exemple les débris d'explosion avec comme un signe des entreprises françaises. Du coup, on l'a rappelé déjà dans l'intro que la France est un partenaire historique d'Israël sur les armes. Sur ces débris d'armes, on se souvient de la responsabilité de l'entreprise française Exelia Technologies. Après une plainte pour complicité de crimes de guerre déposée par une famille palestinienne, les faits ont eu lieu le soir du 17 juillet 2014 à Gaza. Les habitants de l'enclave palestinienne, soumis depuis 10 jours au bombardement d'Israël, reprennent leur souffle à la faveur d'un cessez-le-feu. Vous vous souvenez de cette famille qui a porté plainte ?
Oui. Donc la famille qui a porté plainte s'appelle la famille Chouébar. Donc c'est une famille qui est dans un immeuble d'un quartier calme de Gaza. Cette journée s'est passée pendant le cadre d'un cessez-le-feu. Donc trois enfants de cette famille ont décidé d'aller nourrir les oiseaux sur le toit de l'immeuble. C'était des enfants de 8 ans, 9 ans et 11 ans. Et deux de leurs cousins un peu plus âgés de 12 et 15 ans. Et donc ils étaient là en train de nourrir les oiseaux. C'était une journée dégagée. Il n'y avait pas de nuages dans le ciel, il n'y avait pas de cible militaire dans cet immeuble et il n'y en avait pas à proximité non plus. C'était, comme je disais, un quartier calme de Gaza. Et pourtant, un missile est tombé sur le toit de cette maison et a tué trois des enfants et blessé les deux autres. Et les parents qui ont voulu aller porter secours à leurs enfants ont déplacé les corps et ont voulu porter secours à leurs enfants. Et ils ont trouvé, par la suite, parmi les débris de la bombe qui avait explosé, des pièces sur lesquelles ils ont lu Eurofarad, Paris, France. Et Eurofarad, c'est le nom d'une entreprise qui a été depuis rattachée au groupe Exelia en France. Et donc cette famille Chouébar, depuis ce jour de 2014, déjà elle essaie de se reconstruire parce que le deuil a été extrêmement dur. Mais elle a aussi été accompagnée par des journalistes, des associations, pour pouvoir porter plainte contre cette entreprise française pour complicité de crimes de guerre et homicide involontaire.
Donc, ce qui est intéressant dans le cas d'Exelia, c'est qu'on voit que la France, ou des entreprises françaises, vendent des composants qu'on appelle à double usage, donc qui peuvent être aussi bien utilisés pour du civil et du militaire. Mais donc ces composants à double usage sont vendus à Israël, et Israël ensuite les intègre dans des missiles, dans des drones, dans des avions, et sont ensuite utilisés pour tuer des gens. Donc on voit déjà qu'une des complicités de la France, une des complicités des armes des entreprises françaises, c'est de vendre ces composants à double usage. Ils savent très bien qu'il y a un usage militaire de ces composants-là, ils les vendent quand même, et après ils découvrent qu'il y a eu un usage militaire de leurs composants militaires. Donc c'est vraiment un système hypocrite, mais donc ça fait partie. Donc ça, c'est un des volets, c'est vraiment ces entreprises qui font ce qu'on appelle des composants à double usage. Nous, on considère qu'ils sont tout aussi complices que ceux qui vendent des armes directement.
Pour ajouter quelque chose sur la pièce qui a été retrouvée parmi les débris de cette bombe, il faut rappeler que c'est pas une pièce insignifiante, c'est pas un petit bout de métal qui servait à rien dans une bombe qui d'autre part fonctionnait très bien sans elle, c'est vraiment un capteur de position qui a permis de cibler cet endroit précisément. Donc même si on peut dire que c'est une toute petite pièce de quelques centimètres, cette toute petite pièce de quelques centimètres, c'est notamment elle qui a permis à cette bombe de viser volontairement cette maison civile sur laquelle des enfants étaient en train de nourrir des oiseaux. Donc faut vraiment rappeler que le moindre petit composant qui peut paraître insignifiant en volume ou même peut-être en prix, on n'a pas connaissance du prix de cet objet, mais c'est important de savoir que même si le volume, par exemple, des ventes d'armes de la France vers Israël peut paraître anecdotique, des fois des petits composants, des choses insignifiantes peuvent avoir un impact énorme et être extrêmement importante dans la composition d'une arme qui est utilisée par Israël en ce moment.
Et ce qui est aussi intéressant de signaler par rapport à cette affaire et à la plainte qui a été posée par la famille depuis 2016 contre Exelia pour complicité de crimes de guerre, c'est que c'était la première fois qu'une plainte était déposée contre un marchand d'armes pour des crimes de guerre qui avaient été commis par son client. Cette plainte, elle a d'abord été classée sans suite, mais elle a été relancée donc en 2022 avec constitution de partie civile. Elle est encore en cours. Cet été, il y a eu les audiences de la famille à Paris. C'est particulièrement significatif parce que si ça pourrait être un cas qui ferait jurisprudence, justement, qui permettrait de poursuivre d'autres entreprises par la suite.
Justement, cette idée de l'échelle de la collaboration, il y a plusieurs secteurs. Du coup, il y a les entreprises qui travaillent dans le secteur civil, qu'il est difficile de recenser et qui bossent du coup principalement dans la fourniture de produits semi-finis et ou spécialisés. Et on a les plus grosses entreprises d'armement qu'on connaît, Thales, Safran, j'ai fait une petite liste là sur le tract. Pourquoi il est difficile de recenser et de déterminer quelles sont ces entreprises du secteur civil qui apportent des pièces détachées aux entreprises d'armement?
Du coup, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand la France vend des armes à Israël, ou quand d'ailleurs la plupart des pays vendent des armes à d'autres pays, la vente d'armes, c'est encadré par des licences d'exportation bien spécifiques qui sont accordées par les États. Donc en France, pour qu'un vendeur d'armes vende du matériel militaire à Israël, il faut qu'il demande à l'État français, au ministère des Armées, une licence. Et donc tout ça, forcément, ça force à un certain degré de transparence, même s'il reste, ça laisse beaucoup à désirer. Mais d'autre part, tout ce qui est des composants dits à double usage, qui peuvent être à la fois civils et militaires, ce n'est pas encadré par ces demandes de licence d'exportation. Donc, par rapport aux ventes d'armes, l'État est obligé de rendre un rapport au Parlement tous les ans qui liste les exportations militaires. Bon, ce rapport, il ne nous donne pas des informations si précises que ça, parce qu'il va nous dire il y a eu tant d'euros de vente dans telle catégorie, il y a eu tant de licences qui ont été accordées. Donc, par exemple, pour donner quelques chiffres pour les ventes, les exportations d'armes validées par l'État français, il y a eu 79 licences en 2020, 65 en 2021, 69 en 2022, et au total 767 depuis 2015. Par rapport aux ventes qu'on a vers des pays comme les Émirats Arabes Unis, c'est assez anecdotique, mais même si ça représente déjà quand même pas mal de licences accordées. Mais d'autre part, à côté de ça, donc ce que je vous disais, les composants à double usage qui peuvent être à la fois entre guillemets médicales et militaires ou électroniques et militaires ne répondent pas à ces obligations-là. Donc par exemple, pour la pièce qui était dans le missile qui a tué les enfants de la famille Chouébar, cette vente-là n'a jamais été référencée sous ces licences d'exportation-là. Et donc il y a ces exportations directes d'objets finis ou de matériel militaire qui est vraiment considéré comme militaire, catégorisé comme militaire, mais il y a aussi des partenariats, des collaborations entre les entreprises qui ne rentrent pas du tout non plus dans ces chiffres, ces données factuelles sur lesquelles on peut baser des législations qui peuvent être encadrées par des embargos ou des choses comme ça. Donc il faut savoir que ces collaborations militaires et avec des industriels militaires et non militaires sont souvent beaucoup plus vaste que ce qu'on peut vraiment cadrer par la loi.
Donc juste pour avoir un ordre d'idée, en 2022, officiellement, donc la France a vendu pour 25 millions d'euros d'armes à Israël. Donc on a la quantité globale. On sait juste qu'il y a, parmi ces 25 millions, il y a 9 millions, ça concerne des bombes, des torpilles, des roquettes, des missiles, tout ce qui explose. Voilà. Donc les 14 autres, non, les 16 autres millions, on ne sait pas à quoi ça correspond. Voilà, mystère à la boule de gomme. On sait qu'en 2022, il y a eu 8 fusils d'assaut qui ont été vendus. 8 fusils d'assaut, voilà, oui, et c'est tout. Donc, c'est-à-dire, c'est, donc dans le rapport au Parlement, c'est un puzzle avec plein de pièces manquantes parce qu'on a juste des, on a des catégories, on a des, enfin, on a, il y a quand même 69 licences en 2022, donc c'est-à-dire 62, enfin, combien j'ai dit 69 autorisations, donc c'est 69 lots. Donc, par exemple, les 8 fusils d'assaut, c'est une de ces licences, mais les 70 autres, on ne sait pas ce que c'est. Donc, voilà, donc on sait qu'on vend énormément de choses, mais en même temps, on ne sait pas ce que c'est si on se base juste sur le rapport. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une sorte de contradiction, c'est qu'il y a à la fois donc, le secret commercial, le secret militaire, le secret d'État, première chose, mais en même temps, comme ce sont des entreprises commerciales, et qu'elles font du business et qu'elles aiment bien annoncer des bonnes nouvelles parce que ça plaît aux actionnaires, on a en même temps, ou du côté français ou du côté israélien, des communiqués de presse disant triomphalement, bah ça y est, on a conclu un nouveau partenariat avec un tel, on développe telle arme, telle coopération, etc. Et ça, les coopérations, c'est pas tout de suite des ventes, mais c'est des liens très forts entre des gros industriels français et des gros industriels israéliens dans le domaine militaire, quoi. Donc du coup, par le biais effectivement de ces accords commerciaux et parce que c'est le système capitaliste qui a besoin de faire la promotion de ces ventes, là, on a quand même réussi à trouver beaucoup, beaucoup, beaucoup de partenariats et de ventes entre des boîtes françaises et des boîtes israéliennes.
L'industrie de l'armement, comme toutes les autres industries d'ailleurs du système capitaliste, elle a beaucoup évolué, disons, depuis les années 50 ou 60, où c'était facile de dire la France vend tant d'avions, ou tant de bombes, ou tant de tanks. L'industrie militaire, comme toutes les autres industries, maintenant, ça s'est beaucoup complexifié. Ça passe beaucoup plus par des collaborations entre plein de... Enfin, une arme finale est construite à partir de plein de pièces qui sont construites dans plein de pays. Chacun est spécialisé dans un petit domaine, une petite pièce. Chacun est pour aussi avoir la performance la plus haute, atteindre des objectifs de rentabilité, de performance, d'efficacité, de récupérer les meilleures technologies parmi les meilleurs spécialistes de chaque pays. Cette industrie, elle est devenue beaucoup plus complexe. Donc forcément, quand on pense la France vend des armes à Israël, la première idée qu'on peut avoir, c'est de s'imaginer la France ramener des cargos remplis de bombes ou livrer des avions. Et en fait, c'est beaucoup moins direct que ça. On parle beaucoup plus souvent, effectivement, de petits matériels électroniques, de pièces détachées, de partenariats. Et donc, c'est sûr que, forcément, ça rend la question plus complexe et c'est plus difficile pour chacun d'entre nous, du coup, de comprendre ce marché, de comprendre ce commerce. Et ça, on a l'impression que ça nous dépasse, que c'est trop compliqué, qu'on ne pourra jamais vraiment bien comprendre de quoi il s'agit et du coup, qu'on n'a pas de point d'appui et qu'on ne peut pas agir dessus. Et donc forcément, ça sert ce système d'être aussi complexe, aussi éclaté. Et donc c'est important pour nous de se dire qu'on peut essayer de comprendre, de prendre petit bout par petit bout, de le détricoter, d'essayer de comprendre comment ça fonctionne. Mais que même sans comprendre exactement quelles sont les technologies de tel ou tel truc, on voit qu'il y a des collaborations, il n'y a pas besoin de comprendre exactement de quoi il s'agit en détail pour comprendre que quand telle entreprise comme Thales signe un partenariat et l'annonce par communiqué de presse, nous avons fait un partenariat pour tel appareil électronique incompréhensible avec Elbit, avec machin, avec Raphaël, avec Israel Aerospace Industries ou autre entreprise israélienne. Le partenariat, il est là, la collaboration, elle est là. On sait très bien que de toute façon, toutes ces grosses entreprises, elles font pas des partenariats, des collaborations les unes avec les autres si elles n'ont pas toutes les deux quelque chose à y gagner et si ça nourrit pas leur système, leur machine de guerre et leur système technologique, leur système économique.
Juste un point sur l'aspect mondialisation et spécialisation. Il y a un tableur Excel qui liste toutes les boîtes qui interviennent dans le monde pour construire le F-35, l'avion de combat. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que Michelin, par exemple, s'occupe des pneus sur le F-35. Air Liquide s'occupe du système d'oxygène. Donc, et je crois qu'il y a quelques autres qui sont moins connus. Donc, il y a vraiment des boîtes françaises participent à la construction du F-35. Et d'ailleurs, Excelia fait aussi une pièce pour un de ces avions-là aussi. Donc, c'est intéressant de voir effectivement qu'il y a une. Voilà, donc, on vend juste un système d'oxygène, on vend que le pneu du F-35, mais on participe au montage du F-35 aussi en France, quoi.
Et donc pour donner une échelle de ce nombre d'entreprises qui peut être mise en œuvre sur un seul objet, donc l'avion F-35, là sur ce petit tableau Excel, il y a 264 lignes, donc potentiellement 264 entreprise, endroit qui fabrique des pièces, et sûrement plus en fait, qui fabrique des pièces pour un avion, quoi. Donc il faut se rendre compte que c'est souvent complètement éclaté dans le monde.
Et justement, cet éclatement, il est dû à la fois aux conditions maintenant de production qui sont mondialisées, mais c'est aussi, on peut le voir aussi comme une manière de rendre tous ces commerces d'armes beaucoup moins lisibles, parce qu'on citait en fait la collaboration historique, par exemple via l'entreprise Dassault, qui depuis les années 50 a vendu donc des avions à l'armée israélienne, donc les Ouragans puis les bombardiers Mirage. Ensuite, c'est devenu beaucoup plus compliqué parce qu'il y a eu à partir de 67 un embargo donc prononcé par la France contre la livraison d'armes à la fois aux pays arabes et à Israël. Et donc aujourd'hui, on voit que Dassault a des liens beaucoup plus insidieux en fait. Où on parle justement de ces collaborations. Par exemple, en 2011, il y a le ministère de la Défense qui a commandé à Dassault un drone appelé le Voltigeur, qui est en fait une version francisée d'un drone israélien du groupe Israel Aerospace Industries. Et c'est à peu près la même chose qu'on voit pour les grosses entreprises françaises, par exemple pour Thales, qui est aussi une grosse entreprise française d'armement, qui crée donc en 2005 une co-entreprise avec Elbit Systems et donc la branche britannique Thales, spécifiquement pour développer un programme de drone, le Watchkeeper, sur le modèle du drone israélien Hermes 450. Donc en fait, c'est beaucoup de partenariats de développement au sein de ces entreprises, d'échanges d'ingénieurs et de partage aussi dans le cadre de cybersécurité, de programmes électroniques et informatiques, plus que de bombes. Comme on peut le voir, par exemple, la situation est tout à fait différente aux États-Unis, parce que là, on a des grosses livraisons de ce qu'ils appellent les dump bombs, qui sont juste des bombes sans guidage larguées aujourd'hui sur Gaza. Donc la France ne se met pas dans un lien aussi direct, mais elle participe tout autant à cette industrie.
Justement, sur cette libéralisation du marché, la plupart des chercheurs qui ont travaillé ces dernières années sur l'industrie de l'armement ont été amenés à conclure que la stratégie des entreprises obéissait d'abord à une logique économique et de direction, et seulement dans un deuxième temps, et dans un nombre assez limité de cas, aux exigences politico-diplomatiques. Enfin, c'est dingue en fait de se dire qu'un marché aussi important que celui de l'armement, il se soit autant libéralisé à ce point. Et on a par exemple le salon du Millipol, quoi, en France et à Paris, qui est l'un des 5 salons qui est organisé par la France, qui est organisé tous les 2 ans, où il y a près de 30 000 visiteurs qui viennent comme ça se balader entre les couloirs, voir les 50 entreprises israéliennes qui proposent leurs dernières armes, leurs dernières innovations, etc. Qu'est-ce que vous pouvez en dire sur cette libéralisation du marché ?
Alors, pour revenir sur l'aspect libéralisation, c'est que en France, il y a une tradition militaire qui est ancienne. Nous, en faisant nos recherches sur les entreprises, on a vu par exemple que l'entreprise qui s'appelle Nexter, qui est à Versailles, c'est les anciennes armurerie royale, donc de Louis XIV, Louis XVI. Donc ils disent, voilà, on a 5 siècles d'expérience et d'ancienneté. Donc effectivement, les armes, c'est usuellement en France, c'est contrôlé par l'État. C'est le truc de Weber, là, l'État comme monopole de la violence légitime. Donc effectivement, seuls les flics ont le droit d'avoir des armes et seules des entreprises contrôlées par l'État ont le droit de produire des armes. Donc ça, c'est vrai jusqu'en 1990. Bon, après, il y a des boîtes privées comme Dassault, on y reviendra après. Et on a vu qu'à partir des années 90, comme dans plein d'autres secteurs, on a commencé effectivement à privatiser. Donc il y a plein de boîtes qui ont été privatisées, d'armements qui ont été privatisés depuis les années 90. Et on a l'impression, si on regarde un peu le top 10 de ces boîtes d'armement, que pour faire accepter au public encore plus de privatisation, on a mis ça sous l'angle européen, en disant, grâce à l'Union européenne, tous les Européens sont tous frères, donc on va créer de grandes multinationales à dimension européenne pour faire passer l'idée qu'en fait, on privatisait en vérité ces entreprises. Et donc moi, ce qui me semble la perspective, c'est que là aujourd'hui, on passe par l'argument européen pour privatiser ces boîtes, mais qu'il me semble qu'à moyen terme, voire à court terme, ces entreprises elles vont être de nouveau saucissonnées et revendues à des capitaliste bien français, parce que de toute façon, tout le monde est en concurrence sur le marché mondial de l'armement, et bientôt, enfin, la perspective, c'est que de toute façon, tous ces pays-là vont se foutre sur la gueule aussi prochainement. Quoi. Donc voilà, l'idée, c'est que ces boîtes privées sont privatisées. Leur but, c'est avant tout de faire de l'argent. Eux, ils disent qu'ils ne font pas de politique. Quand on tracte sur des gens de mauvaise foi dans les entreprises, bah oui, de toute façon, nous, notre métier, c'est de vendre des armes. L'homme a toujours fait la guerre. Donc, du coup, c'est notre cœur de métier, on peut pas faire autrement. Donc, il y a vraiment cette idée de c'est un marché, il faut qu'on vende. Et c'est le capitalisme, effectivement, porte en lui, il fait de l'argent avec tout. Et en premier lieu, il fait de l'argent avec la guerre.
Et pour revenir sur ce côté, c'est un marché qui doit être concurrentiel. Donc toutes ces entreprises, comme tu disais, elles se donnent en spectacle dans différents salons, dont beaucoup d'ailleurs ont lieu en France, comme le salon Millipol. Et là, c'est un peu la course à montrer sa plus grande performance, à déployer son savoir-faire, mais aussi à pouvoir toujours mettre en avant que nous, nos armes, elles sont combat proven. Donc ça veut dire elles sont éprouvées au combat. Et ça, c'est un argument de vente énorme pour ces entreprises, de dire voilà, nous, on les a testées, elles marchent bien sur le champ de bataille. Et donc là, c'est intéressant de savoir pour pouvoir dire qu'elles sont testées au combat, il faut avoir des cobayes, entre guillemets, sur lesquels les tester. Et dans ce jeu-là, Israël tire vraiment bien son épingle du jeu parce qu'il a des cobayes séquestrés à portée de main à tout moment. C'est le peuple palestinien, c'est la bande de Gaza. Donc vraiment, on peut dire que la Palestine est un terrain d'essai pour le marché de l'arme mondial, et en particulier du coup pour les entrepreneurs de l'armement israéliens qui du coup ont réussi à vraiment devenir des vendeurs d'armes hyper concurrentiels sur le marché mondial. La présence des entreprises israéliennes, donc comme on le disait, il y en avait... la dernière édition du salon Millipol, cette année, il y en avait 52 entreprises israéliennes qui étaient attendues, et cette quantité, elle a fait qu'augmenter ces 10 dernières années. Au départ, il y en avait peut-être 5, 10, l'année d'après 20, 30, et là, on arrive à 52. Il y en aura combien l'année prochaine? Qu'est-ce qu'ils auront pu tester depuis? Qu'est-ce qu'ils auront pu développer et mettre en avant depuis? Et la France, elle aussi, elle arrive assez bien à tirer son épingle du jeu dans ce marché-là, parce qu'elle a... Elle a pu tester ses armes dans ses anciennes colonies, ou ce qui est encore actuellement un système plus ou moins encore colonial, post-colonial. Je ne saurais pas forcément dire le meilleur mot pour le dire, mais en tout cas, l'Afrique a aussi été et encore le terrain d'expérimentation de l'industrie de l'armement française. Après, voilà, la France, c'est quand même le troisième pays exportateur d'armes au monde. Donc c'est un marché qui est super profitable en France, et qui est donc, même si ça dépend plus ou moins de l'État, que beaucoup de ces entreprises ont pour actionnaire assez important l'État, parmi les principaux actionnaires, souvent à 15, 20, 30, 50% détenus par l'État français, l'État français dans ce moment-là, il se comporte aussi comme un État capitaliste qui veut avoir des entreprises profitables. Et donc, toutes ces entreprises, effectivement, elles doivent gagner de l'argent. Et donc, elles testent leurs armes, et puis elles continuent de les mettre sur le marché, de les présenter comme le plus compétitif possible.
Juste une anecdote sur les salons et l'actualité. Cette semaine, il y a un salon de l'armement qui a lieu en Arabie Saoudite, et Israël a montré en exclusivité l'Orbiter 4, qui est un drone de combat, qui a été testé donc ces 3 derniers mois à Gaza, et hop, maintenant il est déjà en vente dans les salons, quoi. Mais vraiment, outre l'aspect colonial, si on peut passer outre, il y a vraiment cet aspect, on teste des armes, et là maintenant on va faire il y a des gros marchés à prendre actuellement par Israël sur le marché de la défense, c'est-à-dire des armes de guerre, quoi.
Et j'ai oublié de dire, pour ajouter à quel point c'est un gros marché pour la France et à quel point ce marché est important pour la France. Donc comme je disais, c'est le troisième pays exportateur d'armes au monde. L'industrie de l'armement en France, c'est 30 milliards environ de chiffre d'affaires par an. Et les deux autres premiers pays, il me semble que c'est les États-Unis et
la Russie.
Est-ce qu'on peut prendre le temps de se rendre compte que la France, c'est un pays minuscule avec un nombre d'habitants minuscule par rapport aux États-Unis et à la Russie, et que du coup on se place en troisième place à côté de ces pays-là en niveau d'exportation d'armes et d'importance de l'industrie de l'armement? Il faut le mettre en perspective par tête d'habitants. Les revenus des exportations d'armes en France, ça nous met largement en première place si on se met en perspective par rapport à la taille du pays et au nombre d'habitants. Donc cette industrie, elle est hyper profitable et hyper importante pour l'économie de la France, au-delà de son aspect politique et de avec quel pays on est allié ou non. C'est un secteur d'emploi aussi énorme, c'est plus de 200 000 emplois le tissu industriel en France, et c'est des emplois hautement qualifiés, très spécifiques et non délocalisables. C'est des ingénieurs ou des techniciens qui peuvent pas être remplacés ou délocalisés dans d'autres pays. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a des intérêts économiques vraiment qui prédominent sur les intérêts politiques et les intérêts diplomatiques quand on parle de ce commerce-là. Genre mettre un embargo, ok, c'est une chose, mais au final, être sûr que ce secteur reste profitable, continue de fournir de l'emploi, continue de fournir du prestige et continue de gagner énormément d'argent, c'est vraiment beaucoup plus important dans une certaine mesure qu'avec quel pays on est allié ou pas. D'ailleurs, c'est pour ça que la France vend des armes à toutes les parties d'un conflit, quoi. Il y a pas qu'on soit allié de tel ou tel pays, c'est un peu secondaire. Et d'ailleurs, les embargos qui peuvent être prononcés sont souvent contournés. Enfin, pendant le conflit, la guerre en Ukraine, la France soutient. Prétend soutenir à fond l'Ukraine avec l'OTAN, et en même temps, il y a des contournements qui sont mis en place par les industriels pour vendre des armes à la Russie.
Et historiquement, c'était déjà le cas, quand on a cité Dassault tout à l'heure et l'embargo en 67. Récemment, des responsables de Dassault ont dit que, en fait, ils s'étaient plus ou moins arrangés pour contourner en fait cet embargo, et que via l'envoi d'ingénieurs ou de pièces détachées, en fait, il y avait eu la livraison d'armes malgré l'embargo. Donc c'est pas une solution, disons, à justement ce commerce-là.
Il y a eu des effets d'annonce récemment à l'échelle de l'Union européenne, où il y a l'Espagne et la région de Wallonie en Belgique qui ont suspendu leurs exportations d'armes. Est-ce que déjà vous pouvez m'en dire plus sur cette fake news, et en plus de ça sur pourquoi la France ne fait pas ça non plus?
Eh ben déjà, ça coûte pas grand chose de dire qu'on arrête les exportations d'armes de telle date à telle date si de toute façon on n'allait pas exporter d'armes de telle date à telle date, par exemple. Ça coûte pas grand chose d'annoncer qu'on n'a pas accordé de nouvelles licences si on n'avait pas prévu d'en accorder. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut pas oublier. Par exemple, si la France dit à nous, non, depuis le 7 octobre, on n'a rien vendu, bien sûr que non. En même temps, s'ils n'allaient pas en vendre, ça coûte rien de l'annoncer. Par rapport à la région Wallonie de la Belgique, bon, après, il faut quand même dire que c'est une bonne chose que les États ressentent suffisamment de pression pour ressentir le besoin de se justifier, d'annoncer ce genre de choses. Bon, à l'échelle de la Belgique, moi, je suis pas complètement sûre de à quel point cette annonce sur la région Wallonie a un impact sur des ventes concrètes. Ensuite, par rapport à l'Espagne, je sais pas si un de vous deux peut reprendre un peu là-dessus, mais il me semble qu'effectivement, dire que depuis le 7 octobre, ils ont suspendu les ventes d'armes, c'est pas tout à fait... ça reflète pas tout à fait la réalité.
Bon, en fait, c'est pire que ça. Donc, on a appris il y a 10 jours que le Premier ministre espagnol annonce que nous, en Espagne, depuis le 7 octobre, on n'a rien vendu. Donc, c'est-à-dire que le ministre, il a attendu 4 mois avant de faire l'annonce, ce qui est déjà suspect. Et en fait, la presse espagnole, 3 jours après, dit en fait, c'est pas vrai. En novembre, il y a encore eu des exports qui ont été faits. Donc, par exemple, l'Espagne, c'est faux. Ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, il y a une boîte d'aviation japonaise qui a signé des contrats avec Elbit Systems en mars 2023. Là, ils ont annoncé qu'ils rompaient leurs liens, là, en février, pour les 1 an. Ils ont dit, non, c'est bon, on arrête les bêtises, on rompt les liens avec eux. Donc, par exemple, nous, on a plus confiance quand une boîte nous dit, on rompt les liens, quand c'est un homme politique qui nous dit qu'ils font des effets d'annonce. Mais on se rend compte, à travers tout, il y a eu le tribunal du Pays-Bas qui a demandé donc lundi, qui a donné 7 jours au gouvernement des Pays-Bas pour arrêter l'export de pièces pour le F-35. Donc on va voir les réactions du gouvernement des Pays-Bas. Voilà, on sent quand même que depuis 10 jours, il y a quand même une pression sur les gouvernants des pays européens, et donc au Japon aussi, pour qu'ils arrêtent le commerce d'armes. Donc on se rend compte de plus en plus que ce mot d'ordre de arrêter gouvernants ou arrêter chefs d'entreprise de vendre des armes à Israël, là on sent que c'est sur le devant de la scène, partout en Europe et dans plusieurs pays du monde. Ça, c'est une extrêmement bonne nouvelle. Que le gouvernement espagnol soit obligé de dire qu'il ne vend pas d'armes à Israël, c'est extrêmement important qu'il soit contraint de le dire. Même si c'est faux, ça montre qu'il est sous pression. Et effectivement, la question, c'est où est-ce qu'on en est en France ? Et ça, peut-être, je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre.
Le 24 janvier, il y a un article de Mediapart qui est sorti et qui nous a, qui est intitulé « Malgré un appel à cesser les envois d'armes vers Israël, la France continuera d'en livrer ». Et donc, le 24 janvier, Mediapart interrogeait le ministère de la Défense qui, sur la question de « Est-ce que la France vendait des armes à Israël ?» Et là, il a répondu très vaguement « La France respecte strictement ses engagements internationaux dans ses exportations d'armes vers Israël ». À ce titre, elle n'exporte pas et n'exportait pas, avant les événements dramatiques du 7 octobre, de matériel létaux susceptible d'être employé contre les populations civiles dans la bande de Gaza. Mais ce même ministère assure également que la France exporte des équipements militaires à Israël afin de lui permettre d'assurer sa défense, comme l'article 51 de la Charte des Nations Unies lui en donne le droit. Donc là, on est sur cette notion de « Israël a le droit de se défendre ». Et ensuite, on peut se demander, du coup, comme se demande Mediapart, quels sont précisément ces équipements qui permettent à Israël d'entre guillemets assurer sa défense sans pour autant être létaux. Et si la France n'exportait pas avant le 7 octobre de matériel létaux, comment expliquer que, selon les dernières données publiques disponibles, la France a délivré en 2022 9 millions d'euros d'autorisations d'export pour des armes de la catégorie ML4, soit, comme le disait Loïc tout à l'heure, les bombes, torpilles, roquettes, missiles et autres dispositifs explosifs. Donc quand la France dit « nous ne vendons pas de matériel létaux » et depuis le 7 octobre, comme avant, nous ne vendons pas de matériel létaux susceptible d'être utilisé contre les populations civiles de Gaza, on voit que c'est vraiment de la rhétorique, parce que si on vend des pièces, enfin, peut-être qu'ils ne vendent pas une bombe entière et du coup ils peuvent prétendre qu'ils n'ont rien vendu comme matériel létal parce qu'ils n'ont pas vendu la bombe finale, mais s'ils ont vendu des pièces détachées qui correspondent à la catégorie ML4 comme des pièces détachées pour des bombes, torpilles, roquettes et autres dispositifs à charge explosive, c'est ce matériel militaire, c'est bien du matériel militaire et il peut et il est utilisé contre les populations civiles dans la bande de Gaza, contrairement à ce qu'assure le ministère des Armées.
Et donc, on parlait un peu plus tôt de quelle réponse il y avait eu justement à cet appel syndical à l'international, avec des actions de blocage de ports à l'international qui étaient assez spectaculaires, qui ont beaucoup fait parler. Et la question qui revient tout le temps, que les gens nous posent aussi, c'est pourquoi il n'y a pas ça en France ? La réponse à l'appel et le relais de l'appel du 16 octobre des syndicats, ça a été relayé. Et donc, il y a eu prise de position d'abord par... Des syndicats d'enseignants, donc que ce soit Émancipation, la Sud Éducation à l'échelle nationale et des groupes plus locaux. Il y a eu également Solidaire Industrie qui avait sorti un communiqué adressé aux travailleurs du secteur le 10 novembre qui dénonçait l'usage des armes faites. Et il lançait la perspective de, je cite, « Préparons-nous à nous donner le pouvoir de décider ce que l'on produit ». Et il y a les dockers de Marseille qui, le 1er décembre, ont fait une heure de grève pour la paix, dans le cadre d'une coordination méditerranéenne de dockers qui était l'idée donc, par des dockers de Grèce. Après, on a vu également que le 26 janvier, il y a Solidaire qui a pris position à l'échelle nationale, ce qui était une grande avancée pour la campagne, puisque Solidaire, c'est plus de 100 000 syndiqués dans de nombreux secteurs, y compris celui de l'armement. Effectivement, on espère que ça va mener à des actions concrètes de blocage, de grève. Pour l'instant, c'est pas le cas. Mais c'est aussi pour ça que une grande partie du travail de la campagne donc Stop Arming Israël France ici, c'est d'aller justement approcher les travailleurs de ces entreprises d'armement, les travailleurs directement et leurs syndicats, pour essayer de mettre en place justement ces liens. Ces temps-ci, notamment par exemple, les employés de Safran sont en grève. Pas du tout la question qui nous intéresse, mais ils sont en grève pour leur salaire. Et il y a justement un essai de tisser des liens, en fait, justement, entre ces mouvements de grève et de revendications et d'y associer la question de la Palestine. Donc, c'est des choses qu'on essaie de développer, notamment en allant de manière hebdomadaire auprès des entreprises. des entreprises d'armement qui sont en Île-de-France principalement, donc Safran, Thales, Nexter, Exelia, et d'aller à leur rencontre. On appelle évidemment à ce que ces opérations de tractage, de diffusion d'informations auprès des travailleurs qui ne sont pas toujours en fait informés des complicités de leur entreprise avec ces entreprises israéliennes que sont Elbit, Rafael et EAE, et donc directement avec l'armée israélienne. Donc il y a ce but d'information, d'essayer de les ramener dans la campagne et d'essayer de tisser ce lien avec les responsables syndicaux au sein de ces boîtes-là. Et on appelle évidemment à ce que ce mouvement... ce mouvement vers les travailleurs de l'armement, qui représente, comme on l'a dit, donc 200 000 emplois en France, soit fait au-delà de la région Île-de-France. Et il y a déjà plusieurs tentatives qui ont été faites dans le reste de la France.
Oui, parce qu'il faut savoir que donc, le 7 février, il y a eu une journée mondiale d'action contre les entreprises d'armement. Et en France, ça a été relayé par 7 villes ou 7 groupes. Donc, notamment, il y a eu à Saint-Nazaire, il y a eu un groupe de soutien au peuple palestinien qui est allé tracter devant l'usine Exelia de Saint-Nazaire. À Toulouse, il y a eu un tractage qui a été fait, que déploiement de banderoles sur un site, je pense, parce que ça devait être Thalès. Il y a eu une action Thalès à Lille, une action Thalès à Lyon, une action à Marseille qui était visée Thalès a été annulée, et il m'en manque du coup, je ne sais plus. Et donc nous à Paris, on a rendu visite à l'entreprise Dassault Aviation, donc on a rappelé les liens historiques de Dassault avec Israël, et il y a des liens aussi contemporains. Donc nous on s'est pointé sans prévenir, un mercredi matin. Nous on voulait juste tracter les salariés qui arrivent en voiture, qui arrivent depuis le tram, qui arrivent à pied et en vélo, et l'entreprise a paniqué et a fermé les grilles de peur qu'on pénètre sur le site, ce qui a créé effectivement une pagaille monstre dans toute la rue, parce que du coup il y a des problèmes de circulation. Mais nous on a pu quand même encore là distribuer 200 tracts ont été pris par les travailleurs de cette entreprise là. Donc on se rend compte, nous, là, la petite expérience qu'on a de ces de tractage sur les usines, c'est que les employeurs ont extrêmement peur et ne veulent pas que l'on discute avec les salariés de leur boîte. Donc du coup ils mettent en place des stratégies où, quand on annonce à l'avance, ils font partir on a eu le cas il y a deux jours, on a annoncé qu'on venait à 17h visiter le site Safran Défense à Malakoff. Et bien l'entreprise a prévenu ses salariés la veille qu'on arrivait, les a incités à se mettre en télétravail, à poser des RTT ou à se barrer avant qu'on arrive. Et on a même vu que, donc on a pu voir nous depuis l'extérieur, que sur les écrans internes de com internes à l'entreprise, il disait vigilance, 2 points, ce mercredi, Stop Arming Israël vient pour tracter, donc la sortie va se faire par telle rue, etc. Donc il y a vraiment une communication en interne de la boîte pour dire attention, les militantes et militants de Stop Arming Israël arrivent, quoi. Et ça, ils le font tous. On a vu que Thalès aussi, dès que nous, on vient tracter, l'entreprise envoie un mail aux 4000 salariés du site, notamment à Gennevilliers, on a vu beaucoup ça, pour dire attention, Stop Arming Israël France est là. Donc c'est intéressant, parce qu'ils sont les salariés de sécurité et de com interne sont totalement abrutis, puisque à chaque fois, donc nous on touche 200, 300, 400 salariés, mais sur des sites à 1000, 2000, 3000, 4000, en fait, les autres sont touchés aussi, parce que comme on est présent, ils communiquent en interne sur notre présence en disant ne parlez pas avec eux, mais ils donnent le nom d'organisation, du coup les salariés peuvent faire des recherches sur nous. Donc, vraiment cette trouille l'employeur nous reçoit vraiment très mal, quoi. Plus il envoie le pompon, je crois que c'était Nexter à Versailles, c'est l'entreprise qui fait le char Leclerc, etc. À Versailles, on était une quinzaine, on s'est retrouvé avec 20 flics sur le dos, 4 mecs des renseignements territoriaux, les chefs de la sécurité, un sur chaque site, plus les vigiles, donc il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de monde pour nous accueillir. Alors leur problème, c'est que quand on vient juste tracter, on a le droit de tracter, donc ils ne pouvaient rien nous faire, mais c'était quand même présent, ils ont marqué le coup. Et donc ça c'est la réaction de l'employeur, très mécontent, ils essaient de nous foutre la pression, etc. Les salariés, voilà, très bon retour. Il y en a plein qui disent, bah oui, mais moi je viens le samedi, j'en ai parlé avec mes collègues, votre tract, je l'ai photocopié, je l'ai filé aux gens qui bossent autour de moi. Donc on a quand même beaucoup de retours très positifs de salariés qui, en fait, eux, on s'en rend compte, ils bossent sur des morceaux d'équations, ils bossent sur des systèmes laser qui doivent être précis au millimètre carré, mais ils savent pas trop, ils se doutent, mais ils savent pas trop quel va être l'usage de ces recherches. Nous, qu'on arrive à plusieurs avec des tracts en couleur, aux couleurs de la Palestine, en disant effectivement, bonjour, on n'a rien contre vous, notre problème, c'est votre employeur. ça permet à tous ces gens qui bossent dans l'armement, en fait, un peu de se regarder dans une glace et de demander qu'est-ce qu'ils foutent dans cette entreprise qui dont le but premier est de tuer des gens, quoi, quel que soit leur slogan par ailleurs. Donc, nous, on trouve ça hyper efficace d'aller tracter. Ça paye pas de mine, mais l'autre jour, on a vraiment pendant 2 heures, 3 heures, ça fout le bordel en toute entreprise. Tout est perturbé, ils n'arrivent plus à sortir comme avant. Les entreprises retiennent leurs salariés en espérant qu'au bout d'une demi-heure, une heure, on soit parti. Donc, ils empêchent leurs salariés de sortir. Et au bout d'une heure, effectivement, bah, comme on est toujours là, ils sont obligés de sortir aussi, quoi. Donc, vraiment, on peut faire des actions coup de poing pendant 20 minutes, ça perturbe un peu. Mais une action pas coup de poing, juste tractage, ça peut perturber l'entreprise pendant 2-3 heures. Donc, c'est intéressant de se rendre compte qu'il y a des actions qui peuvent être très radicales, juste en étant présent. Ça fout déjà le. Enfin, ils ne sont pas habitués à gérer ce genre de trucs, qui sont des trucs pacifiques, de tractage. C'est trop compliqué à gérer pour eux. Ça serait plus simple si on venait tout péter, quoi.
Et oui, et donc, c'est l'intérêt aussi. C'est pour ça qu'on dit de diffuser la campagne en France, parce qu'en fait, techniquement, c'est pas très compliqué. Comme ces opérations de tractage, elles sont légales, on peut partir à 3-4, imprimer des tracts, aller parler aux travailleurs, ce qui, disons, n'a pas la même ampleur que effectivement de bloquer une usine où en fait à quelques personnes qui n'ont pas d'informateurs en interne ou de moyens, on peut pas bloquer l'usine directement, mais je veux dire ça a son intérêt évidemment de créer ces liens là en interne.
Et nous, du coup, pour aider chacun et chacune partout en France à s'emparer de la campagne, à essayer de mener ses propres actions, à aller à la rencontre des travailleurs ou à faire d'autres types d'actions, parce que tout type d'actions sont bons à prendre. Nous, on essaie de donner des ressources pour qu'un maximum de gens puissent mener ces actions. Donc, on a mis en ligne sur ce que vous pourrez retrouver via nos réseaux sociaux une page qui s'appelle un Padlet sur laquelle on a mis différentes ressources. Et entre autres, dessus, on a mis une carte qu'on a élaboré, qui est encore en cours d'élaboration, une carte de France de toutes les implantations de ces entreprises d'armement complices avec Israël. Donc c'est vraiment une carte type Google Maps sur laquelle il y a plein de points. Actuellement, il y en a près de 170, qui sont toutes les implantations de Safran, de Thales, de Dassault, de MBDA et compagnie. Et donc tous ces sites industriels, de bureaux, de développement, de recherche, etc., ne sont pas forcément directement eux-mêmes impliqués dans la fabrication de matériel qui finit en Israël, mais ils appartiennent tous à des entreprises qui ont des liens avérés avec le complexe militaire israélien. Et donc tous ces endroits-là sont vraiment partout en France, dans la plupart des grandes villes, mais aussi autour de la plupart des grandes villes, mais aussi dans des régions assez reculées. Et donc vraiment chacun et chacune peut aller rendre une visite à ces endroits, s'en approcher. Tant qu'on ne rentre pas dedans, on a le droit d'aller tourner autour et éventuellement distribuer des dangereuses feuilles de papier fortement subversives, telles que des tracts adressés aux travailleurs de l'armement. Et d'ailleurs, ces tracts, bon, vous pouvez faire les vôtres ou venir avec tout autre matériel qui vous semble pertinent. Mais nous, on propose des tracts en libre accès que chacun peut imprimer depuis aussi nos pages sur les réseaux sociaux. Donc on essaie de donner un maximum de ressources pour que tout le monde puisse s'emparer de cette campagne. C'est au final, organiser une opération de tractage, c'est très simple, et la plupart d'entre nous n'avions pas forcément d'expérience dans ce domaine-là avant. Il n'y a pas besoin de demander d'autorisation ni à la préfecture, ni au syndicat, ni à qui que ce soit. Si deux personnes demain dans la rue ont envie d'aller distribuer des tracts, il n'y a pas de demande spécifique à faire. Et donc c'est pareil quand on va à la sortie d'une entreprise d'armement. Les seuls petits conseils qu'on peut donner pour des gens qui voudraient se lancer dans ce genre d'aventure, c'est de faire un petit peu de repérage avant pour voir où sont les entrées et les sorties, faire un petit tour autour, éventuellement essayer de savoir à peu près combien de personnes travaillent à tel endroit, ça permet de savoir combien on a besoin de tracts, et ensuite d'essayer de savoir à peu près à quelle heure ils rentrent et ils sortent pour pouvoir ne pas attendre pendant des heures sans que personne n'apparaisse. Mais une fois que vous avez ces informations-là, il suffit de venir avec quelques centaines de tracts et de se poster à la sortie et de distribuer des feuilles de papier aux gens qui sortent, et en essayant de discuter avec eux de façon constructive, parce que c'est sûr que si on arrive en leur gueulant dessus que c'est des meurtriers, bon, ils vont pas forcément nous écouter, mais par contre, si on leur dit bonjour, on relaye une campagne en soutien au peuple palestinien, saviez-vous que votre entreprise a tel lien ou tel lien avec l'armement d'Israël, là les gens ils peuvent être intéressés, interloqués, interpellés et avoir envie de discuter avec nous. Bon, des fois il y en aura toujours des excités, des énervés qui vont avoir des réactions négatives, ça arrive, mais c'est au final pas du tout une majorité. La plupart des gens sont à minima polis, voire intéressés, voire encourageants.
Pourquoi à Liège, Gênes, Barcelone, Melbourne, Auckland, Toronto, les syndicats s'organisent contre la livraison d'armes à Israël ? En France, ça se bouge pas trop. Tout à l'heure, on en discutait et on se disait que, en fait, la circulation des armes n'est pas très claire et on ne sait même pas si, en fait, en réalité, il y a de la circulation d'armes en France. Et peut-être à Marseille, mais c'est, enfin, il n'y a pas d'évidence, quoi. Peut-être parler vite fait de ça. Et après, on parlera des perspectives d'action. Enfin, quels sont vos objectifs pour la campagne ?
Oui, pour les livraisons d'armes, bon, effectivement, il y a des endroits, il y a des ports, il y a des aéroports où les gens qui travaillent dans ces ports et ces aéroports savent que transitent des bateaux ou des avions qui livrent des armes à Israël. En France, nous, on n'a pas pu trouver d'informations là-dessus. Et effectivement, c'est aussi lié au rôle des syndicats. Parce que peut-être que dans ces pays-là, les syndicats des dockers ou des transporteurs dans les aéroports sont un peu plus alertes sur la situation et donc ont pu s'apercevoir que des livraisons passaient par leur lieu de travail et donc ont pu construire une mobilisation. En France, soit qu'il n'y ait pas de transport qui transite par la France, soit que les syndicats n'aient pas été assez réactif sur le sujet pour l'alerter. Après, c'est sûr que des personnes lambda qui travaillent pas dans ce secteur-là, c'est difficile pour nous de savoir ce qui transite par tel port ou par tel aéroport. Donc il faut savoir que pour pouvoir avoir des informations, pour pouvoir par exemple bloquer un convoi d'armes, il faut savoir par où passe le convoi d'armes, et donc forcément il faut que les personnes qui convoient les armes participent à la campagne.
Donc on appelle tous les travailleurs des aéroports, de la logistique, des docks, à effectivement s'emparer de cette question-là, parce que ils ont un rôle à jouer. Hein. On a beaucoup parlé, nous, des sites de fabrication et de conception des armes, mais il y a aussi le deuxième aspect qui est le transport, quoi. Donc là, nous, on n'a qu'une hâte, c'est que on a commencé à leur écrire le plus possible. On n'a pas de réponse pour le moment, mais vraiment, tous ces secteurs d'activité ont un rôle à jouer. Si effectivement demain les armes restent bloquées au port du Havre ou au port de Marseille, s'ils restent bloqués à Orly ou à Roissy, ce serait une très bonne chose. Donc on voit aussi que les travailleurs de ces secteurs-là, ils ont un grand rôle à jouer. Et nous, on a hâte de pouvoir les aider à tenir un piquet de grève pour empêcher que les armes soient diffusées.
Et c'est vrai qu'en France, les syndicats ont très peu ou très tardivement rebondi sur la campagne Stop Arming Israël, lancée quand même à la base par des syndicats palestiniens. Et voilà, nous, on peut faire des suppositions sur pourquoi en France, le syndicalisme n'a pas été aussi réactif qu'il a pu l'être dans d'autres pays, notamment l'Angleterre, etc., où il y a des groupes syndicaux qui vraiment ont pris à bras-le-corps cette campagne. Pourtant, c'est vrai que... peut-être que ça peut... Donc pour les militants d'entre nous qui sont plus éloignés du mouvement syndical, bon, l'idée que les syndicats vont faire quelque chose sur une question peut-être aussi, entre guillemets, radicale que la Palestine, bon, peu de gens, au final, ont l'espoir ou comptaient vraiment sur les grands syndicats français pour être très actifs là-dessus. Mais pourtant, la tradition du mouvement ouvrier, du mouvement syndical, elle est vraiment, à la base, censée être aussi internationaliste, anti-impérialiste. Et il y a eu, historiquement, dans les guerres décoloniales, des vrais mouvements de solidarité dans les mouvements syndicalistes et ouvriers sur, justement, les questions des envois d'armes et du soutien militaire. On peut citer qu'en France, en 1950, pendant la guerre d'Indochine, il y a eu des grèves de dockers autour de la question des convois d'armes. Il y a eu des mouvements syndicaux dans plusieurs pays. Quand l'Italie fasciste a décidé d'attaquer l'Éthiopie dans les années 30, il y a eu des mouvements syndicaux qui se sont levés contre ça, contre les envois d'armes. Et vraiment cette notion que les syndicats, les travailleurs à l'international doivent se soutenir les uns les autres, ça fait partie à la base de l'ADN du mouvement ouvrier, du mouvement syndical. Donc on peut se demander pourquoi là, en 2023-2024, des syndicats comme la CGT, Force ouvrière et compagnie n'ont pas rebondi sur cette campagne. Nous, les échos qu'on peut en entendre quand on essaye de parler à ces gens-là, c'est « Ah oui, mais c'est compliqué, le mouvement syndical en France, c'est plus ce que c'était. Ah oui, mais les travailleurs ne vont pas nous suivre, ils sont épuisés par des mouvements sociaux qui ont échoué, la réforme des retraites, ça a épuisé tout le monde. » Bon, c'est des diagnostics à faire sur l'état du mouvement syndical en France actuellement. Moi et beaucoup d'entre nous, on n'a pas forcément le recul historique pour pouvoir analyser tout ça. Mais c'est sûr que ça s'inscrit dans des problèmes vraiment profonds dans le mouvement syndical en France. Mais d'autre part, quand des syndicalistes nous disent « Moi, j'aimerais bien reprendre la campagne Stop Arming Israël dans ma boîte d'armement, mais les travailleurs vont jamais me suivre » et qu'à côté de ça, ils ne font rien pour parler à ces travailleurs de cette campagne pour essayer de les mobiliser, on a un peu envie de leur dire « faites comme nous, essayez d'en parler, essayez d'aller les voir. Enfin, ne nous regardez pas, rejoignez-nous. Nous, on est juste des activistes à titre, disons, individuel, des petits militants qui font pas, qui n'ont pas des énormes forces derrière eux pour mener cette campagne. Et on s'est organisé, on s'est auto-organisé pour aller voir les travailleurs, pour en discuter, pour essayer de mettre ce sujet sur la table. Les forces syndicales importantes auraient pu, ne serait-ce qu'en parler, mettre le sujet sur la table, et ça aurait été, bien sûr, beaucoup plus vite. Donc on peut le regretter, on peut le dénoncer, mais en tout cas... on est obligé de le constater, les forces syndicales en France, c'est encore assez problématique. Il ne faut pas être aveugle au fait qu'une partie du mouvement, une bonne partie, voire une partie majoritaire du mouvement syndical et ouvrier va avoir des intérêts qui sont aussi propres, qui sont aussi proches de ceux de l'impérialisme, et qu'il va y avoir une partie des dirigeants syndicaux qui vont être, bien sûr, correspondre aussi... à leur classe, qui n'est malheureusement pas forcément toujours celle des intérêts qu'on défend. Donc c'est sûr qu'il ne faut pas être naïf quant au fait que toutes ces instances-là n'ont pas forcément autant d'intérêt qu'on pourrait le penser à défendre les peuples colonisés.
Quand même, pour finir sur une note d'espoir, donc nous, ça fait 4 mois qu'on est tout seul à galérer chaque semaine, à faire des actions, du tractage, des manifestations, des stands, etc. Et là, on se rend compte quand même, au bout de 4 mois... bon, de nous, mobilisation à Paris et en France, et de 4 mois de mobilisation au niveau international, et de 4 mois d'un génocide qui va grandissant en Palestine, à Gaza et en Cisjordanie, la question des complicités militaires, notamment de la France, mais aussi, donc on l'a vu, de l'Espagne, de l'Italie, du Japon, etc., commence à arriver sur la table. Donc en fait, ce qu'on essaie de vous dire là aujourd'hui, c'est que c'est, ça vaut le coup de se battre, ça vaut le coup d'aller interpeller les travailleurs, les syndiqués de base, et de tout remonter. Plus nous, on se rend compte que voilà, nous, on s'est dit, on va juste donner une feuille de papier à un travailleur qui bosse dans l'armement, mais il y a un tel déploiement de la direction de l'appareil policier, etc., juste parce qu'on distribue des tracts, on se rend compte de la dangerosité de cette jonction entre les militants pro-palestiniens, comme ils appellent ça, et les travailleurs de l'armement, quoi, pour parler que de eux, quoi. Ou demain, peut-être, entre nous et les travailleurs qui bossent dans le secteur du transport. Donc vraiment... ce qu'on fait, c'est extrêmement important. Il faut qu'on continue ce combat. Faut être voilà. Moi, ce qui me, enfin moi que Mélenchon commence à dire, c'est pas normal que la France arme Israël. Et même si je suis pas d'accord avec son mot d'ordre d'embargo, que l'opposition en France au niveau politique, quoi qu'on en pense, commence à en parler, même si elle en parle mal, elle en parle quand même. Ben, je pense que nous, c'est que le début. Et que ça, moi, en tout cas, ça me donne l'espoir de dire, mais il faut qu'on continue cette campagne à mort, parce qu'effectivement, elle va porter ses fruits. Et quand demain, il va y avoir une boîte française qui va annoncer que pour de vrai, elles rompent ses liens avec Israël et que les travailleurs dedans nous confirmeront qu'effectivement, les programmes sont annulés, ça sera une sacrée victoire. Et ça nous permettra d'en arracher d'autres. Donc je pense qu'effectivement, là, aujourd'hui, il ne faut pas lâcher le morceau. Et le fait qu'on est passé de un groupe qui agit à Paris à 6 groupes qui agissent en France, demain peut-être 12, 15 ou 20, bah c'est vers ça qu'il faut qu'on aille, c'est vers élargir cette campagne partout en France pour qu'effectivement on obtienne véritablement que la France arrête définitivement toute collaboration militaire avec Israël.
Et c'est vrai que aussi on dit souvent d'ailleurs dans nos mouvements que la question de la libération de la Palestine, c'est pas que pour les Palestiniens, c'est aussi c'est un angle pour parler de notre libération à toutes et tous, c'est un angle pour parler du colonialisme, c'est un angle pour parler de plein de choses. Et donc lutter pour cette question de l'armement, nous on s'est rapidement rendu compte que c'était tentaculaire, que commencer par dire il faut que la France arrête d'armer Israël, au final c'est on se rend compte qu'on apprend plein de choses sur l'industrie de l'armement dans son ensemble et le système militaro-industriel, sécuritaire dans les pays occidentaux et comment il impacte aussi le reste du monde dans son ensemble. Et donc cette lutte, forcément, on la prend par un petit bout et on se rend compte que ça atteint des tonnes de choses. Et même si, effectivement, il ne faut pas être naïf sur le fait que même dans nos luttes et même dans les mouvements entre guillemets de gauche, il y a des personnes avec des intérêts différents. Je pense que la convergence qui peut se créer autour de ces sujets-là, c'est une des choses qui fait peur, comme disait Loïc, aux gouvernants, aux chefs d'entreprise, à la police, se rendre compte que justement il peut y avoir une convergence entre justement un mouvement ouvrier syndical qui pour l'instant est encore sur ses questions de salaire et ses luttes qui lui sont propres, et une rencontre avec des luttes autour de la question coloniale, autour des personnes racisées, autour de l'islamophobie, des questions de genre, etc. On peut se rendre compte que autour de la question palestinienne d'abord, et puis autour, on voit ensuite, autour de la question par exemple militaire, l'industrie de l'armement, etc., il y a les moyens de créer une véritable convergence avec l'écologie, avec la décolonisation, la lutte contre l'impérialisme. Et on peut dépasser nos intérêts qui sont propres à nos identités et créer une lutte plus globale.